Théophile Gautier, yeux verts et talons roses. Le bateau s'élève, puis redescend avec une douceur perfide. Nous sommes bien rarement parallèles à l'horizon, situation désagréable à tous ceux qui n'ont pas le pied marin. Horace avait raison de dire que celui qui s'aventura le premier sur les flots devait avoir un cœur de chêne doublé d'un triple airain, et cela au propre encore plus qu'au figuré. Mais éloignons ces idées malsaines. J'ai déjà fait plusieurs traversées, et le vieux père océan n'a plus exigé de moi le tribut ordinaire. La Méditerranée, ce ciel liquide, ce grand saphir fondu, a été pour moi d'une clémence rare, et les Anglais de Gibraltar n'ont pas eu la satisfaction de voir un jeune Parisien prendre un teint de quart citron qui a fait des excès au roulis d'un steamer britannique. Non, je suis un débiteur oublié, si tant est que le laité existe pour les créanciers. Cependant, j'éprouve une vague inquiétude et je pense au vers de Lucrèce « Suave Mari Magno ». Hexamètre excellent à débiter du rivage. Ce souvenir classique qui me reviennent en foule ne sont pas d'un bon augure. Le vent augmente, les roues nous envoient une poussière salée, au roulis s'est joint le langage, s'engage la fumée rabattue par le gros temps, nous enveloppe de ses flocons. Oh, si ça continue, il faudra en arrivant nous ramener de la frigure. Combien de fois j'ai marché par les chemins qui ne venaient point au-devant de mes pieds, dans des allées sablées, sur des parquets parfaitement tranquilles, et cela sans apprécier mon bonheur. Aujourd'hui, j'imiterai volontiers la naïveté de cette cantatrice italienne qui, malade du mal de mer, s'écriait au milieu de la Manche « Oh, descendez-moi, je ne veux pas aller plus loin !» Pour nous distraire de ces pensées maladives, regardons les yeux de notre voisine qui est assise là sur le pont, groupée dans son manteau de fourrure. Oh, ce sont de beaux yeux d'une teinte étrange, ni noir, ni bleu, ni gris, ni fauve, mais d'un vert d'algue marine, des yeux orageux. Procello si oculi. Oh, ce n'est peut-être pas un moyen d'éviter ce que je crains. Dans ces prunelles transparentes et profondes, je reconnais les couleurs de l'océan. Il ne faut pas trop s'y mirer. Le vertige pourrait vous prendre. Mon cœur se trouble. Que disais-je donc? Ah oui, qu'Aphrodite, née du ciel et de l'écume de la mer, avait les prunelles de cette couleur. Où l'air des flots et l'or du soleil se fondent également. Ils rappellent ainsi sa double origine. J'avais commencé un compliment, le finirai-je. Le froid me transit, je vais descendre dans l'entrepont. Quel dissolvant malaise! Il me semble que mon âme va quitter mon corps. Ô saint plancher des génisses, comme on dit, l'abbé de Lille, combien je te regrette, et quel dommage que l'on puisse aller dans une île que par bateau. Quel caractère morose doivent avoir les gens qui ne peuvent ni rentrer chez eux, ni en sortir, sans reconnaître l'inefficacité des bonbons de Malte. En conséquence, je me crois en devoir et en droit de formuler cet axiome. Les îles ne sont pas des pays. J'admets à peine les presqu'îles. Mais j'adore les continents. Les stoïciens étaient des gaillards solidement trempés qui niaient la souffrance et, au milieu des plus atroces tourments, avaient la force morale de dire « Douleur, tu n'es qu'un nom ». Tenons au mal de mer le même langage. Narguons-le, ne l'admettons pas. Traitons-le comme une pure abstraction. Domptons le corps par l'esprit. Faisons voir à la matière que l'âme est la maîtresse. Forçons-nous par la pensée à l'oubli du présent, à l'amertume des nausées, opposons la douceur des souvenirs. Faisons comme les musiciens, prenons un thème et brodons-le. Les pieds ont joué dans ma vie un grand rôle, sans compter les pieds embaumés des princesses de la princesse Hermontis, morte il y a 4000 ans, et qui m'a longtemps poursuivi. Que les pieds soient notre thème, allez, avec un pareil sujet, on peut aller loin. Elle avait promis de me faire une visite. Je demeurais dans l'Alhambra, dans la salle de Los Dos Hernanas. Lola, son amie, habitait une vieille maison mauresque. La maison de Kislalagassi, au temps du Bolonville, tout auprès des jardins de l'Ijaraja. Le prétexte de sortie était suffisamment plausible. Elle arriva un matin vers 8 heures, fine et mince dans sa mantille, un éventail vert à la main, un œillet rouge à la tempe, avec cet air délibéré, furtif à la fois, qui la faisait ressembler à une biche prenant sa résolution pour traverser un chemin. Elle avait promis de me faire une visite. Je demeurais alors à l'Alhambra, dans la salle de Los Dos Hermanas. Lola, son amie, habitait une vieille maison mauresque, la maison de Xaragassi, au temps du roi Boabdil, tout près des jardins de l'Imharaja. Le prétexte de sortie était suffisamment plausible. Elle arriva un matin vers 8 heures, fine et mince dans sa mantille, un éventail vert à la main, un œillet rouge à la tempe, avec un air délibéré et furtif à la fois, qui la faisait ressemblait à une biche prenant sa résolution pour traverser un chemin. Je ne l'attendais pas encore et j'étais assis sur une marche de marbre blanc, occupé, comme dit Juliette, à faire se becter deux rimes au bout d'une idée et deux rimes espagnoles qui pisaient, car la fantasque créature m'avait ordonné de lui faire un dixain dans cette langue que je savais fort mal, et cela avec la menace de ne pas me parler de 8 jours et de ne pas me donner la fleur qu'elle avait portée dans ses cheveux à la promenade. Elle était fille à tenir parole, et j'avoue que, pour éviter un pareil malheur, j'avais composé un madrigal sanscrit. « Mais vous écrivez à votre Novia, à votre maîtresse de France, me dit-elle, en m'arrachant des mains le pauvre papier, encombré de ratures que je n'avais pas eu le temps de fourrer dans ma poche. Les quelques mots qu'elle put saisir étaient d'une orthodoxie rassurante. Je lui disais que ses yeux feraient fondre la Sierra Nevada, éteindrait le soleil, éclipserait les étoiles, et autres galanteries un peu hyperboliques, dont nous autres gens du renom, d'une arme parfaitement naturelle dans la patrie des Djedjis et des Abencérages, qui n'ont jamais existé, à ce que prétendent les érudits. Métaphore à part, c'était des yeux qui, pour n'être pas vert, ah, mais ne sortons pas de notre thème. Occupé de sa lecture, elle trempa par mégarde son pied chaussé de satin à la mode andalouse dans une de ces rigoles de marbre qui réunissent un bassin à un autre, et où ruisselait toujours ce cristal de roche, ce diamant humide qu'à Grenade on appelle tout simplement de l'eau. Elle ôta son soulier, que n'aurait pas chaussé un enfant de 10 ans, et dit en riant « Quelle bonne tasse pour boire !» Et elle porta à ses lèvres à moitié plus d'eau. Jamais vin du Rhin, dans un verre de bohème, ne me parut aussi délicieux que l'eau de la fontaine des lions dans ce petit soulier. Avant de se rechausser, elle tendit vers moi sa jambe qui luisait comme une agate sous la maille de la soie et me dit, avec un regard tout à fait royal, « Cavalier, regardez bien ce pied. Souvenez-vous que jamais vous n'en verrez de pareil. » En quoi elle se trompait, car... Pouvoir magique de la pensée. Pendant 1 heure, j'ai vécu réellement à 600 ou 700 lieues de mon corps, malgré la dureté de la houle et l'âcre odeur de l'océan. J'étais bien dans le Porto de la Tassa, l'alcarazza d'argile poreuse posée par terre à côté de 2 citrons, le nez cassé d'un des lions de la fontaine qui lui donnait une physionomie grotesquement furieuse, les fleurs du parterre, les mystérieuses inscriptions arabes, je voyais tout. J'entendais la voix de contralto de l'ami de Lola, tantôt claire comme l'argent, tantôt riche comme le cuivre. Et je me portais parfaitement bien sans cet infernal miroir qui est placé juste en face de moi et qui vacille au mouvement de la vague. Il brille et s'éteint comme un piège d'alouette, puis il se ravive et jette des étincelles dans l'ombre. La lumière tremble dessus comme du vif argent. Il m'éblouit, me fascine et me donne le vertige. Chacune de ces oscillations m'avertit de ne pas oublier que je suis sur la mer. Connais-je le pied assez ferme pour me lever et l'aller briser, damné miroir? Puisse la première femme qui te regardera dans ta glace te trouver une rougeur sur le nez, elle te brisera en 1000 morceaux. J'ai beau fermer les yeux, ces reflets louches me poursuivent et m'entrent sous les paupières comme des armes d'épée. Allons, ma pensée, courage! Ne te laisse pas vaincre. Encore un coup d'aile, et nous arrivons, triomphants, au rivage. Comment, vous irez au bal par cette chaleur? Apprenez, monsieur, qu'il ne fait jamais chaud pour aller au bal. Mais il n'y a pas assez d'air pour soulever l'air d'une mouche. Mais vous êtes tout frais. Mais prenez-vous pour une Anglaise qui s'empourpre auprès dîner ou pour une Française trop serrée dans son corset. Je vous ferai voir demain que je n'ai pas eu chaud. Et croyez-en ma conscience, je ne manquerai pas ni une contredanse ni une valse. En débitant cette phrase d'un ton de déesse blasphémée, elle défit son bas, arracha 3 pétales d'une rose de son bouquet et les colla à son talon. Puis elle se rechaussa et dansa toute la nuit. Le lendemain, les 3 feuilles étaient aussi fraîches que la veille. Les côtes d'Angleterre commencent à se dessiner là-bas, tout au bord de l'horizon. Oh, ma mémoire, dans un de ces replis secrets, dans un de ces tiroirs, plein de ces riens qui sont tout, cherche un souvenir qui puisse me faire croire que je suis assis dans ma chambre, dans un fauteuil moelleux, tranquille. Un jour, j'avais pris du haschich, c'est-à-dire une cuillerée de paradis sous la forme d'une pâte verte, et je fis les rêves les plus bizarres. J'entendis des fleurs qui chantaient. Je vis des phrases de musique bleues, vertes et roses qui sentaient la vanille. Une transposition complète de toutes les idées. Le plafond s'entr'ouvrit et laissa passer un talon frais, rose, poli, un talon d'ange, de sylphide, qui n'a jamais marché que sur l'azur et sur les nuages. Je devins amoureux fou de ce talon, qui valait pour moi le visage d'Hélène ou de Cléopâtre. Étant amoureux d'un talon, cela ne s'est jamais vu. C'est une bizarrerie incompréhensible, et pourquoi donc, s'il vous plaît? Un talon n'a-t-il pas des courbes gracieuses, des finesses de lignes admirables, des teintes charmantes? Que ceux qui ne se tromperont pas ailleurs allaient voir au musée des Antiques les pieds de jaspe d'Unisis en basalte noir et ne seront plus étonnés de ma passion. Un secret pressentiment me disait que ce talon existait. Mais quelle babouche, quel brodequin, quel soulier le contenait? Où trouver mon idéal? Je n'avais d'autre ressource que le haschich, magicien fiable, qui évoquait l'objet de mon amour. Une chose qui semblera incroyable et qui est pourtant vraie comme toutes les choses incroyables, c'est que je ne m'étais jamais représenté en ce talon accompagné d'un corps. À peine si je voyais le reste du pied comme l'adorateur d'une femme qui a de beaux yeux et qui ne sache pas aux autres traits du visage. J'étais aussi malheureux, aussi agité, aussi plein de désirs extravagants que Faust après avoir vu l'image d'Hélène dans le miroir magique. Un soir, elle dansait. Je ne sais quel sylphe, pris de jalousie, à la voir si légère, se métamorphosa en pointe de clou et traversa l'étroite semelle de son mince soulier. Jugez, quelle alarme! Tout le monde s'empressait autour d'elle. Je me trouvai là par hasard, et l'on me donna à tenir la bandelette qui devait comprimer la piqûre. Que devins-je quand je reconnus le talon de mon rêve, ce talon qui semblait me sourire du haut des nuages. Hélas, pensais-je, il y a bien loin du talon au cœur. Oh, si je faisais revenir du Caire une autre portion de haschich. Nous sommes arrivés, cria une voix glapissante du petit Mousse en passant sa tête par l'ouverture de la cabine. Il était temps.